Les cours du Collège de France, évolution du climat et de l'océan, Édouard Barr.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, bienvenue à ce sixième cours de l'évolution du climat et de l'océan. Et cette semaine, donc, pour clore cette série, j'ai intitulé le cours « Petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive ». Mais comme vous allez le voir, on va quand même rester sur les problèmes de l'optimum climatique romain pour justement ensuite envisager cette transition vers une période de climat un peu plus froid en particulier. Alors, j'en étais resté la semaine dernière à vous montrer cette vue un petit peu synthétique de ce qu'est l'optimum climatique romain à partir des séries dendroclimatiques. Donc, je vous ai expliqué à la fois pendant ce cours et l'année dernière, on avait vu un peu les fondamentaux de l'analyse par dendroclimatologie, à partir donc des cernes d'arbres, de l'épaisseur des cernes d'arbres. Il est possible en fait de reconstituer, avec des calibrations qui sont empiriques, des changements de température, voire de précipitation, et d'autres paramètres. Alors, ici, vous avez donc deux reconstitutions que j'ai déjà montrées, qui sont tout à fait importantes dans le domaine, qui sont centrées en fait sur l'Europe, et qui montre en fait des compilations de ces reconstitutions de température, et qui montre en fait une période globalement un peu plus chaude, qui précède donc une dégradation climatique. Et je vous ai dit, en contrepoint de ce qu'on avait vu l'année dernière, que tout ceci ressemblait fort à la succession entre l'optimum climatique médiéval et le petit âge glaciaire, avec des frontières qui ne sont pas bien définies, des variabilités internes qui sont très conséquentes et des changements de température qui ne sont pas très importants. Ici, donc, juste pour montrer justement toute la difficulté de ces reconstitutions, je vous montre ces deux reconstitutions avec des amplitudes qui sont différentes, hein, pratiquement un facteur 2 entre les deux, mais qui globalement montrent en fait les mêmes choses avec un réchauffement entre, on va dire, 100 avant notre ère jusqu'à pratiquement 300 de notre ère, ère commune, et des variabilités importantes. Alors, cette variabilité de haute fréquence, elle n'est pas aléatoire, en fait. On voit qu'il y a des correspondances entre les différents enregistrements, bon, qui sont souvent fondés en fait sur des séries qui sont les mêmes, donc en fait c'est pas très étonnant non plus d'y retrouver les mêmes fluctuations, mais il n'empêche, il y a des fluctuations importantes, notamment, j'avais déjà signalé un coup de froid, qui est le coup de froid le plus important des derniers pratiquement 2500 ans pour les températures en Europe, qui correspond à l'année 43 avant le présent, en particulier pour la série qui a été reconstituée par Lutterbacher. Et cette année de 43 avant notre ère, eh bien, elle correspond à un événement tout à fait singulier dans cette série. Et il est, bon, à titre d'exemple, encore une fois, il y a d'autres événements climatiques que l'on retrouve qui sont singuliers dans ces enregistrements, mais je vais prendre celui-là un petit peu comme exemple, à titre d'exemple, pour vous montrer qu'on arrive quand même, puisque là il s'agit d'un événement qui est relativement bien documenté, à trouver finalement une cause à cet événement. Alors, pour ne pas trop laisser de suspense, je vous mentionne en fait que cette année-là correspond en fait à une éruption volcanique majeure qui a été finalement redécouverte récemment. Enfin, la correspondance a été redécouverte récemment avec, encore une fois, c'est à l'autre bout de la Terre, c'est-à-dire qu'on se place là, ici, au niveau du nord du Pacifique. Il y a eu une éruption majeure. Les éruptions, comme on l'a vu, importantes en climatologie, je vais y revenir, sont les éruptions qui sont non seulement qui injectent en fait du SO2, de l'oxyde de soufre dans l'atmosphère, mais il faut que ces éruptions soient suffisamment explosives en fait pour que le panache et ces gaz soient émis jusque dans la stratosphère. Et donc en fait, il y a eu effectivement une éruption majeure en 43 avant notre ère d'un volcan situé dans les Aléoutiennes. Le volcan de Loch Mock, hein, ici vous avez une petite carte de situation de ce volcan, et cette éruption en fait elle a laissé sa trace dans plusieurs enregistrements, notamment dans les glaces du Groenland, hein, dans des différentes carottes de glace, en particulier la carotte américaine qui s'appelle GISP 2 et la carotte européenne North Grip 2. Et dans ces carottes de glace, ici c'est juste un zoom, avec, il est possible dans ces carottes de glace de compter des couches annuelles. Avec, il y a plusieurs indicateurs qui varient annuellement, donc on a vraiment une chronologie pratiquement absolue, et il est possible d'identifier la glace qui correspond à chaque année, en tout cas sur les derniers millénaires, c'est tout à fait possible, et d'identifier justement les années une par une. Et ici, vous avez quatre enregistrements justement qui servent à illustrer ce que l'on voit dans les glaces du Groenland. Eh bien, c'est d'une part des taux de particules qui sont très importants, hein, qui correspondent à l'année 43, avec une augmentation de particules fines qui correspondent finalement à des cendres volcaniques. Hein. Il a même été trouvé des petites cendres volcaniques ici. Bon, il s'agit de petites esquilles de verre volcanique. Il est même possible de faire de la chimie à partir de ces verres volcaniques, directement sur les esquilles trouvées dans les carottes de glace, et de pouvoir montrer effectivement qu'en faisant de la chimie, en particulier en considérant en particulier de la silice et puis d'autres éléments, de voir que la répartition, les mesures en fait obtenues sur ces cendres volcaniques trouvées dans les glaces du Groenland correspondent bien à ce que l'on connaît des dépôts directement au niveau de ce volcan de Loch Mock, donc dans les Aléoutiennes, complètement à l'autre bout de la Terre par rapport au monde romain. Hein, bien évidemment, les Romains n'avaient pas du tout conscience qu'il y avait une éruption importante. Il y a eu des éruptions de l'Etna relativement proches, donc, mais cette éruption majeure, elle provient d'un volcan explosif qui a injecté des gaz soufrés, en particulier dans la haute atmosphère. Alors ces gaz soufrés, ils se transforment et ils se condensent et ils forment en fait des particules de sulfate que l'on va retrouver et que l'on va pouvoir mesurer. C'est la courbe verte ici, c'est pour ça qu'il y a un petit retard, mais globalement elle correspond aussi à l'année 43-42 avec cette éruption importante qui correspond justement à une augmentation de ce soufre exprimé en nanogrammes par gramme. Alors on fait des corrections pour éliminer le soufre d'origine marine, hein, le NSS, ça veut dire non-sea salt sulfur, c'est-à-dire on fait des corrections parce qu'on a d'autres éléments pour justement montrer que le soufre peut varier en fonction des apports marins, mais quand on fait ces corrections, eh bien on trouve effectivement une correspondance avec un pic majeur qui correspond à cette éruption. Donc globalement, les analyses chimiques sur les cendres volcaniques montrent de façon définitive que ce qui est trouvé dans cette carotte de glace, plusieurs carottes de glace, eh bien ça correspond effectivement à un volcanisme explosif. Alors comme je vous l'ai dit, seules les éruptions très explosives qui envoient du SO2 en particulier, qui va ensuite s'oxyder, enfin des gaz soufrés, donc SO2, H2S et autres, qui vont s'oxyder et former des sulfates, vont avoir dans la stratosphère, vont avoir un impact climatique, parce que la stratosphère, c'est une partie de l'atmosphère qui est sèche, et qui les aérosols soufrés vont avoir une durée de vie relativement importante, vont rester en fait dans la stratosphère, alors que si l'éruption n'est pas suffisamment explosive, si le panache reste dans les basses couches de l'atmosphère, eh bien, il va y avoir un lessivage de ces très rapide en quelques semaines ou quelques mois par les pluies de ces aérosols s'ils restent en fait au niveau de la troposphère. Donc c'est pour ça que il y a uniquement ces très grandes éruptions explosives qui pénètrent dans la stratosphère, qui peuvent avoir un impact sur le climat, et l'impact le plus important est en fait un refroidissement essentiellement lié à l'augmentation de l'albédo. Il y a une réflexion, donc il y a un refroidissement au niveau de la surface du sol. Alors il y a aussi un réchauffement en haute altitude, mais globalement, pour ce qui nous concerne, c'est essentiellement un effet de refroidissement net au niveau de la surface. Et comme les aérosols vont se répartir pas à la surface de la planète, mais dans l'atmosphère à haute altitude, mais pratiquement sur des franges de latitude et de longitude qui vont être importantes à cause des mouvements d'air dans la stratosphère, eh bien, ça va avoir un effet, même si le point d'émission est ponctuel, ça va avoir un effet qui va être global. Alors, l'année dernière, je vous ai parlé de ces grandes éruptions. On avait vu des généralités, justement, sur le climat des deux derniers millénaires, et je vous ai parlé même des difficultés de la modélisation de ces éruptions volcaniques et de leurs effets sur le climat. Et je vous avais, en particulier, montré quelques exemples, en fait, de couplage. Maintenant, les modélisateurs utilisent des modèles qui couplent non seulement les modèles climatiques avec des modèles qui simulent la formation des aérosols et leur pénétration, leur injection qui peut être ponctuelle à partir d'une éruption volcanique et leur devenir avec toute la chimie qui va avec les différentes classes de particules aussi d'aérosols qui vont plus ou moins sédimenter et disparaître de la haute atmosphère. Donc ça, c'est juste un exemple en fait qui montre des modélisations à partir d'un modèle qui est le modèle spécialisé sur ces aspects-là du Max Planck de Hambourg, avec un modèle climatique qui est couplé avec un modèle d'aérosol et qui permet justement de faire des simulations. Et ce qui est présenté ici, en fait, c'est pour deux cas d'école. Deux suppositions sur l'injection, une à 15 degrés nord, donc une éruption stratosphérique intertropicale. Ici, donc le panache, enfin le soufre va rester essentiellement à basse latitude, alors que si l'injection se fait à 50 nord ou 56 nord pour ce qui concerne l'Okmok, eh bien on va avoir un confinement en fait de ces aérosols, de ce soufre. Dans l'atmosphère de l'hémisphère nord, hein, c'est ça qui est indiqué ici. Bon, ces graphes en fait représentent la teneur en soufre cumulée sur toute la colonne verticale atmosphérique au cours du temps. Après l'éruption, après l'année zéro, qui, par définition, dans la modélisation, correspond à l'éruption où l'on injecte dans la haute atmosphère numérique ce soufre. Donc on voit le SO2, en fait, qui va ensuite s'oxyder, former ces aérosols qui vont retomber en quelques années. Voilà. Et alors, on voit très clairement que lorsque l'injection, c'est le cas C ici, qui correspond finalement à l'Okmok, 56 nord, on voit que les aérosols sont confinés à l'hémisphère nord. Et donc, on s'attend à avoir un effet climatique aussi qui est complètement asymétrique, complètement dissymétrique, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il y a injection au niveau équatorial ou intertropical. Généralement, l'effet, il est quasiment global, un refroidissement à l'échelle mondiale. Alors que là, effectivement, on voit dans la modélisation, c'est ça qui est fait ici, il s'agit d'un article qui regarde précisément justement cette éruption de l'Okmok, ses conséquences, en tout cas en modélisation, ainsi que dans les, comme vous allez le voir, des comparaisons avec ce qui s'est passé dans le monde romain. Ici, vous avez des simulations des anomalies de température. Avec, alors là, il s'agit plus du modèle du Max Planck, mais un modèle américain, un modèle du NKR, mais qui donne en fait des résultats similaires. Le panneau du haut en fait montre les simulations des anomalies de température liées à cette éruption de l'Okmok quelques années après, dans les deux années qui ont suivi, avec un refroidissement très conséquent sur tout l'hémisphère nord, notamment à proximité de l'Alaska, des Aléoutiennes et autres, mais on voit aussi que c'est vrai pour tout l'hémisphère nord, incluant aussi toute l'Europe. Donc on a un effet qui est global, mais asymétrique entre les deux hémisphères. On voit même des réchauffements au niveau de l'hémisphère sud. Et quand on fait un zoom en fait sur la zone méditerranéenne, nord et sud, sur le nord de l'Afrique et l'Europe, ici ce qui est représenté en rouge et en jaune, c'est en fait ce sont les limites de l'Empire romain, à cette époque. on a essentiellement un effet de température, un effet de refroidissement, une cartographie qui montre un refroidissement pratiquement sur toute la zone méditerranéenne, sur tout le pourtour méditerranéen, en particulier sur les continents. Et il est possible, en fait, de même considérer, faire des moyennes au cours du temps, c'est ça qui est fait dans ces deux graphiques, des moyennes à la fois pour le nord de la Méditerranée et le sud de la Méditerranée, en tout cas le domaine romain, avec essentiellement un refroidissement qui est très abrupt pratiquement partout dans le monde romain. Donc on a un refroidissement qui est très marqué, que l'on voit de façon très nette, qui a forcément eu des conséquences, comme on va le voir, sur l'économie romaine. Un autre paramètre qui est aussi très important pour l'agriculture, notamment, ce sont les anomalies de précipitation. Alors, il est plus difficile, on en a déjà parlé aussi l'année précédente, de la difficulté de la modélisation des précipitations. Donc c'est effectivement ce qui est fait avec le même modèle, c'est-à-dire qu'on a à la fois les températures et les précipitations dans ces simulations, et pour le coup, on voit une augmentation, hein, c'est ça qui est simulé ici, pour les deux années qui ont suivi l'éruption de Lokmok, on voit une augmentation pratiquement sur le pourtour méditerranéen, encore une fois, mais à plus haute latitude et plus basse latitude, on a une inversion, c'est-à-dire que si on va par exemple au niveau du nord de la Gaule, hein, dans ce cas-là, on a un assèchement, alors que l'augmentation des précipitations est confinée effectivement à l'ère méditerranéenne. Et on voit notamment aussi, ça a son importance, qu'au sud, en fait, en particulier au sud de l'Égypte, très au sud, même au niveau des, comme on va le voir, des sources du Nil, eh bien, une diminution des précipitations. Alors, le même type d'exercice a été fait de reconstitution au cours du temps avec la modélisation de façon saisonnière et avec une moyenne annuelle, c'est la courbe noire, des anomalies de précipitation exprimées en pourcents au cours du temps pour la partie nord de l'Empire romain et pour la partie sud. Donc on voit une augmentation en particulier pour la partie nord, notamment en été, hein, c'est la courbe rouge ici, qui montre une augmentation des précipitations. Ce qui est important aussi, c'est ça qui est signalé finalement dans cet article, c'est qu'on a aussi, de façon un peu contre-intuitive, une diminution des précipitations qui est très notable au sud, en fait, de la zone romaine, notamment au sud de l'Égypte, qui était le grenier qui alimentait en partie les Romains à cette époque, notamment dans la zone, ici, ces deux cartes en fait, qui représentent l'Égypte et le Nil en particulier, les sources du Nil, au-delà du Soudan et au niveau du Soudan, de l'Éthiopie et autres. On a vu ça une année précédente avec le Nil blanc et le Nil bleu. Donc c'est une zone de ressources, de recharge en fait de ce Nil. Et ce que montre la modélisation, c'est qu'il y a eu une diminution très importante, en tout cas dans cette modélisation, des précipitations dans ces zones. Et donc on s'attend à avoir, c'est ça qui est prévu par la modélisation, des crues du Nil beaucoup moins importantes à cause de cet événement de Lokmok. Alors c'est effectivement quelque chose qui a été vu dans les données, c'est ce que les auteurs ont essayé de retrouver dans les archives historiques. Et alors, bon, encore une fois, c'est l'histoire de Rome est très compliquée à cette époque, en particulier autour de l'année 43. Mais les auteurs, en fait, font l'hypothèse que finalement l'éruption de Lokmok n'a pas été le déclencheur unique d'événements politiques, en particulier de la transition de la République à l'Empire. C'est vraiment au cours de cette période entre moins 60 jusqu'à 20 avant notre ère qu'il y a eu transition, crise en fait de la République romaine. C'est pas à moi de faire un cours sur cette histoire, mais vous avez une succession d'événements politiques qui sont liés à une crise un triumvirat avec César, Pompée et Crassus, un début de guerre civile, l'assassinat de César qui prédate en fait l'éruption de Lokmok, puis ensuite d'autres événements avec les conflits entre Octave Octavien et Marc-Antoine, la bataille d'Actium, etc., le suicide de Marc-Antoine, Cléopâtre, tout un tas d'événements bien connus en histoire de Rome, de la Rome antique. Mais aussi, il y a eu pendant cette période, pendant ces périodes, des événements qui sont directement liés à des paramètres climatiques, en particulier des pénuries alimentaires au niveau de Rome. C'est ce que j'ai signalé ici en jaune. Il y a eu aussi des épidémies en Italie, très clairement aussi correspondant à cette date des problèmes au niveau des crues du Nil, donc des famines qui étaient liées à ça, qui sont effectivement enregistrées dans les textes et dans l'histoire de cette région. Et donc il est très clair que même si la transition de la République à l'Empire n'est pas liée à cette éruption, puisque de toute façon un bon nombre de ces événements politiques précèdent l'éruption de Locmoc. L'éruption de Locmoc n'a fait que contribuer à certaines pénuries, à certains problèmes, en particulier au niveau de l'agriculture à Rome et ailleurs, et notamment au niveau du grenier qui était constitué par l'Égypte à cette époque. Et donc on est, bon, l'hypothèse de ces chercheurs est que ça a contribué. Ils reconnaissent qu'il y a une grande difficulté à essayer de quantifier l'effet précis de cette éruption de Locmoc, mais que ça a contribué, avec d'autres effets politiques, internes, sociaux, à cette crise de la République romaine, qui ensuite est devenue un empire, du côté égyptien, du côté de l'Est, avec une fusion, avec une annexion de l'empire du royaume lagide, du royaume ptolémaïque. C'est clair que ces collègues paléoclimatologues et géochimistes avançaient en terrain un petit peu miné, à la suite de leur article, ça n'a pas traîné. Il y a eu des critiques ici d'un économiste et d'un historien qui était un petit peu dogmatique. Il n'y a pratiquement rien dans la critique au point de vue factuel, c'est essentiellement une critique un peu dogmatique sur le fait que, comme les événements politiques sont très compliqués avec des seuils, c'est ça qui est indiqué ici, les approches quantitatives démontrent comment les seuils des variables sous-jacents du système peuvent engendrer des changements non linéaires et des rétroactions en cascade. Il est donc vain de tenter de relier les événements sociétaux de grande ampleur à des chocs environnementaux. Tout événement, quelle que soit son ampleur, aurait pu servir de déclencheur. Donc c'est ça la thèse, mais il n'y a pas non plus de démonstration. C'est un petit peu une position, comme je l'ai dit, un peu dogmatique sur le fait qu'il y a une quasi-impossibilité de quantifier l'influence spécifique d'un événement climatique. Encore une fois, les auteurs, eux, répondent avec flegme en disant que, en fait, ils proposent rien d'autre que la démonstration d'un événement climatique qui a forcément eu un impact en fait sur Rome. Et ils montrent en fait, effectivement, qu'il y a des évidences d'impact forcément sur le climat, sur l'agriculture, et que donc c'est quelque chose. Enfin, il faut que les historiens en tiennent compte, même si, effectivement, c'est très compliqué d'essayer de faire une distinction et de quantifier, en termes de pourcentage, l'importance de cet événement dans cette succession, dans cette transition de la République vers l'Empire romain. Mais, encore une fois, un événement très particulier, et leur conclusion est que cet événement, comme il constitue en fait pratiquement l'événement le plus froid depuis 2500 ans, il a forcément eu un impact significatif sur la production alimentaire de la société durant cette période, déjà tumultueuse et critique de l'Antiquité, et il termine en disant que tout comme il en aurait un même sur le système agricole hautement mécanisé d'aujourd'hui. Bon, là, c'est une traduction que j'ai faite avec rapidement, mais essentiellement, donc la conclusion, c'est qu'on ne peut pas oublier ce type d'événement qui était vraiment critique quand on regarde l'histoire climatique des derniers 2500 ans. Alors, en plus de ces événements singuliers hein, qui durent, les éruptions volcaniques ont une influence sur quelques années uniquement, eh bien, il faut aussi continuer à regarder les événements un peu plus lents à l'échelle de quelques siècles. Et comme je vous ai parlé en préambule et dans le titre du cours d'aujourd'hui de Petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive, je vais un peu continuer sur cette lancée en regardant ce qui s'est passé après l'optimum climatique romain. Encore une fois, on peut se servir des séries dendroclimatiques qui sont basées, encore une fois, sur les épaisseurs des cernes annuelles. Alors ici, il s'agit de reconstitutions en fait, qui ont été établies à partir de centaines de pins et de mélèzes en Europe centrale et qui permettent de regarder ce qui s'est passé entre pratiquement 500 avant notre ère jusqu'à, ici ça va jusqu'à l'année 2000, donc on a toute l'histoire sur un graphique, mais essentiellement on peut considérer la transition entre ce que je représente à chaque fois ici en vert, qui est l'optimum climatique romain, et des périodes de dégradation climatique avec un refroidissement à partir du 4e siècle, et on voit même une chute des précipitations à partir du 3e. On va voir aussi qu'il y a un refroidissement qui correspond à un assèchement, hein, qui est souligné ici en bleu, et c'est ça qui a été baptisé, comme on va le voir, petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive, pour faire le parallèle avec le petit âge glaciaire beaucoup plus récent que l'on a vu au cours du dernier millénaire. Alors, ici, il s'agit de données qui sont établies à partir de calibrations empiriques entre l'épaisseur des cernes d'armes et le climat. On en a parlé l'année dernière, mais ce sont des calibrations qui sont empiriques, qui sont fondées en fait sur les liens statistiques entre la croissance des arbres actuels et des paramètres climatiques. Et ces calibrations sont utilisées dans le passé en supposant en fait qu'elles sont valables au cours du temps. Alors, il est possible, je vous l'ai dit, d'utiliser d'autres archives ainsi que d'autres paramètres. Alors, on peut le faire aussi directement sur le bois. Et je vous ai déjà parlé des rapports isotopiques, des isotopes stables, notamment de l'oxygène, du carbone aussi, je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans les derniers cours. Et donc, il est aussi possible de faire des mesures de delta O18, donc de rapport isotopique O18 sur O16, de rapport delta C13, donc carbone 13 sur carbone 12, du bois. Et ce sont tous les deux indicateurs sont liés, revoir ce que l'on a vu précédemment, mais sont liés à la fois aux précipitations et à la température. Et de façon empirique encore, même si on quantifie des marqueurs qui sont physico-chimiques, hein, qui sont liés au fractionnement isotopique, et on a vu qu'il y a des principes de base de physique qui permettent de comprendre en fait le principe en fait de ces fractionnements isotopiques, dans quelle direction ils vont. Mais quand on essaye de faire des reconstitutions climatiques, assez souvent, en fait, on est obligé en fait de considérer des liens relativement empiriques. Et donc, ce qui a été fait dans cet exercice, c'est sur les mêmes arbres, les mêmes troncs d'arbres qui ont été découverts et qui servent à reconstituer par dendroclimatologie les fluctuations de température. Ici, je vous ai représenté, alors ici, c'est pas tiré du même article, donc c'est pas exactement la même base de données, mais il s'agit de l'enregistrement pour la zone nord des Alpes, des changements de température vus au travers des changements de l'épaisseur des cernes d'arbres. Et ce qui a été mesuré avec une résolution annuelle, eh bien, ce sont les rapports isotopiques delta O18, delta C13, du bois, de la cellulose, et avec des calibrations empiriques, il a été possible en fait de reconstituer un indicateur, un index, un indice de sécheresse, en particulier ce que l'on appelle l'indice de Palmer, PDSI en anglais, qui ici est représenté de telle façon que lorsque ça monte, eh bien, on est plutôt avec une humidité qui croît, donc wet, et quand ça baisse, on est plutôt en période sèche. Et donc c'est alors l'indice de Palmer, l'indice de sécheresse de Palmer, il dépend, on peut le quantifier, c'est comme ça qu'il a été conçu, on peut le quantifier à partir des données météorologiques, à partir des températures, des précipitations, et comme le delta O18, et ça la base en fait de l'approche, c'est comme le delta O18 et le delta C13 sont aussi liés à des changements de précipitations et de température, eh bien quand on fait des corrélations statistiques empiriques, eh bien en combinant le delta O18 et le delta C13, on arrive à retirer une variabilité qui est corrélable avec l'indice de sécheresse de Palmer. Donc c'est ça le jeu qui a été fait par ses collègues, avec, bon, encore une fois, des incertitudes qui sont inhérentes justement à ces approches empiriques et statistiques. Donc globalement, là, on retrouve encore une fois l'optimum climatique romain que je souligne ici en vert, et qui précède en fait une période de dégradation de température. On voit des fluctuations de la pluviosité et surtout ensuite un refroidissement conséquent à partir de 500 qui correspond à une période relativement sèche. C'est ce qui est indiqué ici en anglais. Donc drought en anglais, et globalement ce qui est bon, cette période elle est appelée en anglais l'ALIA pour Late Antique Little Ice Age, qui en français est le petit âge glaciaire de l'antiquité tardive. Donc je vais à chaque fois indiquer le terme de PAGA sur les planches. Mais donc c'est un événement qui est beaucoup moins long que le petit âge glaciaire du dernier millénaire, mais globalement c'est une période plus froide et plus sèche, et qui fait la transition, enfin qui est différente justement de cet optimum climatique romain, et les deux étant placés en contrepoint l'un de l'autre. Alors pourquoi ce qui est important aussi, c'est de considérer les causes, et c'est ça qui est fait dans ce type de graphique. Alors encore une fois, on peut le faire avec la modélisation, puisqu'on peut introduire les forçages climatiques dans les modèles, et sur ces échelles de temps, et en particulier pour les fréquences de l'ordre du siècle et de quelques décennies, hein, pour les fréquences que l'on regarde, que l'on considère sur ces enregistrements, eh bien, les deux facteurs externes qui sont importants, eh bien, ce sont d'une part les fluctuations solaires, exprimées ici en watts par mètre carré, c'est l'irradiance solaire totale ou l'éclairement solaire total, exprimé en watts par mètre carré, et surtout les éruptions volcaniques qui aussi ont une influence en watts par mètre carré, comme on l'a vu, un petit peu comme Lokmok, mais il y a des fluctuations erratiques en fait de ce volcanisme stratosphérique, enfin qui pénètre dans la stratosphère et qui a une influence climatique indéniable. Alors ici il s'agit des derniers 2000 ans, donc on va retrouver ici des éruptions bien connues comme le Krakatoa, le Tambora et autres, mais nous ce qui nous intéresse c'est cette partie, et notamment le fait qu'il y a des correspondances qu'on va revoir un peu dans le détail entre cette chute de température importante, cette baisse de l'humidité, en tout cas dans la zone européenne, avec ce petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive qui correspond à des éruptions majeures. C'est un peu le pendant, sauf que là, il y en a plusieurs. Donc il s'agit d'une période qui n'est pas singulière, qui est singulière parce qu'elle est caractérisée par une multiplicité d'éruptions volcaniques, mais c'est l'effet cumulatif de ces différentes éruptions qui a eu un effet prolongé sur le climat sur plus d'un siècle, alors que, comme on l'a vu pour Lokmok, eh bien, l'effet instantané d'une éruption singulière, stratosphérique, même importante, eh bien, va se dissiper au bout de quelques années. Alors, les éruptions volcaniques qui ont pénétré la stratosphère, elles ont été répertoriées, elles sont maintenant relativement bien connues au point de vue de leur âge, notamment avec les archives glaciaires que l'on peut dater à l'année près. On retrouve comme ça à la fois des pics d'acidité, des pics de sulfate et quelquefois des cendres volcaniques. On peut aussi faire des comparaisons nord-sud, c'est-à-dire que les éruptions stratosphériques les plus importantes, en particulier celles qui sont issues de volcans intertropicaux, eh bien vont se retrouver à la fois au pôle nord et au pôle sud, en Antarctique et au Groenland. Et on peut, en considérant justement les flux de soufre, en les quantifiant ici c'est exprimé en, à chaque fois ici en téragramme de soufre, on peut faire une cartographie au cours du temps en fonction des latitudes des différentes éruptions majeures qui donc ont eu une influence sur le climat. Alors pour la partie récente, on retrouve celle que j'ai déjà mentionnée, donc le Tambora, bon, on aurait la dernière, les dernières qui étaient bien connues, mais en fait, ce qui est important sur ce graphique, c'est qu'on peut maintenant faire la distinction entre les différentes latitudes, donc reconstituer les flux de soufre pour les différentes éruptions intertropicales importantes qui donc vont avoir un effet pratiquement à l'échelle globale, les éruptions qui ont impacté plutôt les hautes latitudes ou les basses latitudes, et dans ce cas-là on s'attend plutôt à un effet dissymétrique comme on l'a vu pour l'Okmok. Et ce qui est vraiment significatif, c'est de voir que la période de l'optimum climatique romain, au moins le cœur en fait, correspond à une période pratiquement sans éruption volcanique. C'est ça qui est indiqué ici, Roman Quiet Period. Il n'y a pratiquement pas d'éruption volcanique majeure, intertropicale, pendant toute la période, entre moins 100 et plus 100. Donc c'est quelque chose qui a contribué, cette absence de volcanisme. Alors on peut le quantifier avec la modélisation, mais au premier ordre, c'est ça qui est responsable, effectivement, de ce réchauffement important, qui est somme toute assez discret quand même, mais qui est quantifiable à l'échelle de plusieurs siècles. Voilà. Donc, un impact important. Alors maintenant, quand on regarde ce qui s'est passé autour du début, justement, de ce petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive, eh bien, ça débute avec des éruptions vers 536-540. Et ces éruptions, on va voir qu'elles correspondent à des éruptions dont on n'a pas identifié les volcans. C'est ça qui est indiqué sur ce graphique. On va voir qu'on a encore des volcans qui sont bien caractérisés au point de vue de leur flux de soufre. On peut connaître, on peut savoir même si ce sont des volcans plutôt situés à haute latitude ou à basse latitude, mais pour l'instant, l'événement qui a débuté justement ce petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive, avec il y a deux grosses éruptions majeures, une en 536 et l'autre en 540, pour l'instant, ces deux éruptions ne sont pas identifiées. On a cru à un moment que c'était une éruption au Salvador, l'éruption de l'île Pango, mais en fait, des données assez récentes en fait, montrent que cette éruption a eu lieu avant, en 431. Donc, c'est une science qui avance, et pour l'instant, on n'a toujours pas identifié ces volcans, mais bon, ça n'empêche pas de pouvoir faire des considérations climatiques sur les flux de soufre et leur impact sur le climat. Alors, il est aussi intéressant de voir que qu'on peut aussi faire des comparaisons entre les séries dendroclimatiques pour différentes zones géographiques. C'est ce qui est fait, en particulier pour mettre en évidence des changements à très grande échelle, pour montrer que ce changement du petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive n'est pas uniquement centré sur l'Europe. Alors c'est ce qui a été fait justement par ces auteurs qui ont comparé à la fois des séries d'androclimatologie pour la zone européenne, le nord des Alpes, avec des deltas de température, c'est la courbe que je vous ai déjà montrée. On retrouve ici les différents forçages volcaniques et solaires. Et ils sont allés aussi en Asie, dans l'Altaï, pour récupérer des arbres et faire le même type d'études et montrer qu'en fait, on avait aussi le même type de comportement avec une période relativement chaude qui correspond à la période romaine et une dégradation climatique significative à partir de 530-540 qui est complètement synchrone. Donc on a des connexions climatiques entre ces deux zones géographiques. Alors ces deux zones géographiques, elles sont... On peut essayer de comprendre en fait cette corrélation entre les deux zones grâce à la modélisation. En fait, c'est ce qui a été mis en évidence dans des exercices de modélisation qui montrent en fait qu'il y a un couplage climatique entre les deux régions. Alors, c'est vu à la fois avec des modèles climatiques et avec des données météo, où on essaye de regarder les corrélations croisées entre les deux zones géographiques, pour le dernier siècle, en fait, c'est avec les données instrumentales, et essentiellement le couplage climatique entre les deux zones, donc le fait que l'on s'attende à retrouver des changements de température aux échelles interdécennales qui sont similaires, est lié à l'existence en fait d'ondes atmosphériques dans la haute troposphère qui modulent en fait la présence d'anticyclones en été, et c'est ça qui explique, en tout cas dans la modélisation, les corrélations comme ça spatiales à grande échelle. Donc on a de bonnes raisons pour expliquer justement ces corrélations manifestes, en tout cas que l'on retrouve avec les séries de dendroclimatologie à grande échelle. Alors il est aussi possible d'utiliser les arbres d'une autre façon. On peut aussi, toujours pour étudier ces changements climatiques du petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive, en regardant, en particulier en Europe, la fréquence en fait des bois étudiés dans les sites archéologiques, en particulier en Europe. C'est ce qui a été fait par certains auteurs qui ont fait des compilations de l'âge des bois dans des sites archéologiques répartis un peu partout, en particulier dans cette zone qui est indiquée dans ce diagramme. Cette carte en fait représente deux choses. Ce sont les petits points montrent en fait les bois qui ont été utilisés pour faire ces reconstitutions de dates d'abattage, parce qu'en fait, ce qui était intéressant pour étudier la déforestation, c'était d'avoir un accès aux dates d'abattage des bois dans les différents sites archéologiques. Et en même temps, il y a des archéologues et historiens qui essayent de quantifier avec des modèles, qui collaborent avec des modélisateurs, pour essayer de quantifier, de reconstituer en fait la déforestation de l'époque, en particulier ici, c'est une carte qui a été produite pour reconstituer la déforestation au IIIe siècle de notre ère, et qui est basée en fait essentiellement sur des reconstitutions démographiques de l'Empire romain et aussi sur des considérations sur la qualité des sols pour l'agriculture. Et donc il est possible de faire des modélisations, encore une fois avec des coefficients empiriques, pour essayer de prévoir la déforestation. Et globalement, en combinant ces différents types d'informations, les auteurs ont réussi à montrer en fait qu'il y avait un effondrement pendant la période entre vers 200 de notre ère jusqu'à 500. Il y avait un effondrement en fait des dates d'abattage de ces arbres dans toute la zone là que je vous ai indiquée. Il y a pratiquement une dizaine de milliers d'arbres qui ont été étudiés. Chaque arbre est représenté ici par une barre verticale, c'est ça qui est représenté sur ce graphique. Une barre verticale représente la durée de chaque arbre qui a été étudié, et globalement, on voit pratiquement un effondrement. Ici, c'est le nombre d'arbres, date d'abattage pour ces différents arbres, et donc, ce qui est retrouvé, en fait, c'est une diminution très nette entre 200 et pratiquement 500. Et tout ceci est mis en corrélation avec une chute de la population. Alors des populations de cette zone qui ont été estimées avec des modèles démographiques qui valent ce qu'ils valent, mais on voit clairement, il faudrait prendre la dérivée pour avoir un signal plus important, mais on voit très nettement une augmentation ici, ensuite une diminution, donc on change de ce signe, on a une population qui décroît, et une couverture, une reforestation, une couverture forestière qui augmente pendant toute cette période. Alors cette période, elle est bien connue, c'est ce qui est signalé ici, c'est une période de troubles à l'échelle de l'Europe, en tout cas du nord de l'Europe, avec qui est la période des migrations, ou entre guillemets des invasions barbares, qui a déstabilisé l'Empire romain, les deux empires, les empires d'Orient et d'Occident. Bon, ici c'est juste une vue très imagée et très résumée de ce qui s'est passé. Donc c'est une période en fait de déstabilisation et de migration à grande échelle qui a commencé en fait au IIIe siècle avec des mobilités croissantes de peuples germaniques, comme les Gaules, les Alamans, les Francs, Il y a aussi des peuples nomades comme les Sarmates. Et puis ensuite, à la fin du IVe siècle, histoire bien connue, bon, ici c'est une représentation imagée du XIXe siècle qui bien évidemment est caricaturale, comme on va le voir, mais qui représente en fait l'arrivée des Huns qui vont encore plus déstabiliser l'ensemble, toute la zone, et qui a entraîné des migrations avec un phénomène de domino. Alors les Huns, eh ben, ils franchissent la Volga vers 375 de notre ère, et puis ensuite ils vont durablement s'installer en Hongrie, enfin dans les Carpates, dans le bassin des Carpates, dans ce qu'on appelle la plaine pannonienne, et qui sera en fait le cœur en fait du royaume d'Attila, qui a régné jusqu'en 453. Alors bon, il est évident que c'est pas moi qui vais vous faire l'histoire de ces entre guillemets invasion barbare. C'est un terme qui en plus a été galvaudé et caricaturé à l'extrême et qui ne reflète pas complètement la réalité. Et ce qui est intéressant, c'est que les données archéologiques quelquefois sont surprenantes ici pour justement montrer que les choses sont beaucoup moins violentes que l'iconographie et que en fait même les textes le disent. Ici, je représente les données assez récentes en fait d'une étude sur une étude isotopique de restes osseux de la zone de l'Empire des Huns au niveau de la Hongrie lorsqu'ils s'étaient installés à cette époque dans la plaine hongroise. Et ce qui a été fait en fait par les auteurs, c'est de retrouver dans les restes osseux du collagène et de faire des mesures isotopiques. Alors, il y a des mesures effectivement aussi génétiques, mais les mesures isotopiques, elles permettent en fait d'étudier l'alimentation et le mode de vie finalement qui a été adopté par ces populations qui se sont installées et qui aussi étaient en conflit occasionnel, même assez fréquent, avec l'Empire romain situé plus au sud, mais il est possible de voir en fait qu'il y a eu une hybridation un petit peu des populations, c'est-à-dire que les modes de vie et l'alimentation avaient changé aussi. C'est pas une dichotomie complètement claire entre des éleveurs nomades asiatiques qui auraient gardé leur mode de vie et qui auraient repoussé et tué et repoussé les peuples d'agriculteurs. Alors, ce qui a été fait ici dans cette étude, c'était de faire des mesures de delta C13 et du rapport similaire delta 15N, 15N sur 14N, dans le collagène d'ossements dans des cimetières à la fois en Hongrie, en Allemagne et en Asie centrale, correspondant à la même époque. Et le résultat de ces analyses, hein, j'en avais parlé lorsqu'on avait considéré le changement d'alimentation des Vikings du Groenland, je vous ai dit qu'on pouvait tracer ceci avec le delta C13 parce qu'on voyait très bien un changement alimentaire avec une consommation de produits issus de la mer, mais il est possible aussi de faire le même type d'exercice avec le delta C13 et le delta 15N, alors pas avec des produits de la mer là, en l'occurrence, mais un changement d'alimentation entre d'une part la consommation de blé, d'orge, etc., la consommation d'une autre céréale, le millet, qui n'a pas du tout la même composition isotopique, qui était plutôt utilisée par les Asiatiques. Et donc, on a aussi une consommation différente aussi de viande entre les deux populations. Et ce que l'on voit, en fait, dans ces diagrammes, c'est que il y a un contraste important, effectivement, entre le delta C13 des cimetières en Allemagne par rapport à ce que ça peut être en Asie centrale. On a ici une diminution du delta C13, essentiellement liée à la consommation d'autres céréales. Et par contre, ce qui a été retrouvé dans ces cimetières en Hongrie, qui correspond donc au 5e siècle, est tout à fait intermédiaire, avec une dispersion qui est relativement importante, ce qui montre en fait que les populations avaient des régimes assez variés. Donc une dichotomie qui n'est pas aussi nette entre les différentes populations et une hybridation et finalement une, une, quelque chose qui est beaucoup plus intermédiaire. Alors, il n'en reste pas moins que les Huns ont quand même créé des troubles conséquents pendant toute cette période. Et ici, pour l'illustrer, en fait, et pour voir quelle est la correspondance avec les changements climatiques, ce qui a été fait par les auteurs, eh bien, c'est de regarder ce qui s'est passé pendant la période, justement, de migration entre 350 et 500, de faire un zoom sur cette période et de regarder les différents événements qui correspondent à l'arrivée des Huns en Europe. Alors, c'est ce qui est fait ici. Donc, vous avez toute la période entre moins 100 jusqu'à la période 2000. Donc, on a vu cet assèchement, toute cette période correspond à l'assèchement du petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive, et cette transition climatique avec un assèchement, eh bien, on peut faire un zoom entre 350 et 500, c'est ce qui est fait ici dans ce diagramme, et ce qu'on retrouve, en fait, on peut placer les différents événements chronologiques, à la fois ici le passage de la Volga par les Huns en 375, je crois, et ensuite l'installation dans les grandes plaines de Hongrie, etc., et une dégradation climatique qui a donc suivi, en fait, qui n'est pas la cause. Il est très clair qu'on voit un assèchement au niveau de toute cette région suit, en fait. Donc, c'est pas effectivement le moteur de ces changements, mais on voit aussi qu'à partir de la période relativement sèche qui correspond à cette dégradation, à cette diminution de l'indicateur des pluies, là, qui est l'index de Palmer, on voit très clairement une augmentation des raids et des traités avec l'Empire romain. Donc peut-être, c'est ça l'hypothèse qui est faite dans ces articles, et encore une fois, c'est absolument impossible de quantifier les causalités, mais une dégradation climatique qui a peut-être accéléré et incité ces peuples à faire des raids contre l'Empire romain situé plus au sud. Donc on retrouve encore une fois peut-être un déterminisme climatique, mais qu'il est très difficile de prouver. Mais c'est important de regarder les correspondances. Alors, lorsque l'on regarde les deux zones et que l'on considère les changements pendant ce petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive, on voit qu'il n'y a pas seulement des événements politiques et sociaux et liés à ces migrations, mais il y a d'autres événements. Alors, c'est ce que je représente ici sur ce diagramme, ce qui a été représenté par des auteurs ici. On retrouve de façon simplifiée les changements de température dans l'Altaï, les changements de température au niveau des Alpes, avec cette dégradation climatique qui correspond à peu près à l'année 536-540, avec ces deux éruptions majeures dont l'origine est inconnue, mais qui sont bien là et qui ont eu un impact climatique, qui est ce refroidissement. Donc on retrouve toute la zone bleue correspond à ce pagate. Et ce qui est signalé, c'est qu'il y a eu d'autres événements, en particulier des événements la zone européenne, avec ce que l'on appelle la peste justinienne. On va regarder un petit peu de détails justement sur cet événement qui a eu des conséquences importantes pour l'Empire romain, qui à l'époque était divisé. Bon, c'était l'Empire byzantin. Il n'y avait plus que cet empire, l'empire d'Orient. Et tout ça pour dire que la peste a vraiment durement frappé l'empire de l'empereur de l'époque, Justinien. Alors, elle est appelée justinienne essentiellement parce que l'empereur qui était installé à Constantinople a probablement contracté la maladie, la peste, et en fait n'en est pas mort. Mais donc. C'est un événement qui, comme on va le voir, a eu un impact sur la population importante. C'était une époque qui était relativement tardive, donc de l'Antiquité tardive, avec cet empire romain d'Orient, empire byzantin. Justinien a été le dernier grand empereur, le dernier empereur expansionniste. Il a même tenté, en fait, de de rétablir l'unité de l'Empire romain avec, c'est ce qui est symbolisé ici, c'est une carte en fait qui reconstitue les différents événements politiques avec les différentes dates d'annexion de à la fois l'Italie, de l'Afrique du Nord et autres, du Sud de l'Espagne, et de leur intégration dans l'Empire romain d'Orient. Et le but était de reconstituer l'entièreté de cet empire romain qui avait perdu sa moitié d'Occident. Alors cet empereur Justinien, il est aussi connu pour avoir décidé en fait de construire la basilique Sainte-Sophie à Istanbul maintenant, à Constantinople. Donc c'est représenté ici, et on a beaucoup en fait de données sur cette peste qui a débuté pratiquement vers 540. Alors ici c'est un diagramme qui est tiré de publications assez récentes qui montre en fait ce que l'on connaît avec des dates, hein, des différents sites archéologiques où on a retrouvé à la fois des sépultures et des preuves en fait. Il est possible aussi de faire de la génétique pour retrouver et prouver en fait que c'est bien la peste, la vraie peste, Yersinia pestis, avec cette bactérie tout à fait caractéristique dans différentes zones du monde romain en particulier, avec une propagation d'est vers l'ouest. Qui est parti en fait d'Asie centrale parce que la région d'endémisme en fait de cette peste, elle est en Asie centrale. Et alors à l'heure actuelle, il y a encore des controverses, des débats pour savoir comment elle est passée vers l'Empire romain, mais il est apparemment indéniable qu'elle est passée par l'Égypte et qu'elle n'est pas venue directement en ligne droite est-ouest depuis l'Asie, mais qu'elle est passée finalement par l'océan Indien, la mer Rouge, pour arriver en 541 au niveau de l'Égypte, qui était partie intégrante en fait de l'Empire romain à cette époque, et l'on retrouve ensuite avec des datations différents sites qui ont été affectés. On en a aussi en France. Ici, ça c'est une carte du sud de la France avec des sites, en particulier Lunel-Vielle, Arles ici, 543, etc. Donc une contamination très rapide cette peste de Justinien qui a beaucoup affecté les populations. Alors il y a des estimations de dizaines de millions de morts avec cette pandémie, mais les chiffres en fait sont très controversés. Et globalement, il y a aussi beaucoup de travaux qui ont été réalisés et des controverses, des débats pour savoir comment elle est passée en fait de la zone de l'Asie centrale vers le sud. Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à cette époque, il y avait un empire, l'empire des Huns blancs ou l'empire heftalique, qui était installé pratiquement depuis la zone de l'Asie centrale jusqu'à la mer jusqu'à la mer d'Arabie ici depuis et donc il y a des échanges commerciaux indéniables qui ont été mis en évidence, et il est très probable en fait que la peste a effectivement été transportée par bateau via la mer Rouge jusqu'à l'Empire romain pour ensuite contaminer tout l'Empire. Alors cette peste, elle a diffusé très rapidement. La bactérie Yersinia pestis, elle est transportée essentiellement par les rats noirs qui sont liés au transport du grain. Et il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés et qui sont en cours aussi, sur la diversité génétique, et qui suggèrent en fait une circulation régionale relativement durable après une introduction initiale depuis l'Asie. Et ça, c'est assez différent de la peste noire, en fait, qui est caractérisée par des réinjections depuis l'Asie. Mais en ce qui concerne cette peste de Justinien, on a une diversité génétique qui est beaucoup plus faible et qui signe justement une installation au niveau de l'Empire romain qui va perdurer et expliquer en fait des poussées épidermiques récurrentes pendant plusieurs siècles. La peste, elle a débuté donc en 541 dans l'Empire romain, mais on va voir qu'il y a pratiquement une quinzaine d'épidémies jusque pratiquement au 8e siècle. Alors, il y a des incertitudes en fait sur ce qui se passe dans la zone d'Asie centrale. Là, c'est juste une carte d'un ouvrage, enfin d'un travail très récent qui signale en fait le manque en fait de données. Donc, il y a quelques données génétiques qui permettent de mettre en évidence cette peste au niveau de l'Asie centrale à cette époque, mais encore une fois, beaucoup de vides et beaucoup de sites ne sont basés que sur des suppositions. Il y a effectivement des preuves sur certains sites qui sont représentés ici en noir de la présence de peste, mais pour ce qui concerne toute l'Asie centrale, il y a encore beaucoup d'incertitudes et donc de recherches à faire, en particulier pour expliquer la connexion et la documenter, surtout entre le nord et l'océan Indien. Alors, pour revenir au problème du climat, il y a une correspondance, une corrélation. Alors, une corrélation ne veut pas dire causalité, mais encore une fois, on voit très clairement que la peste, cet événement, commence avec cet événement de changement de température pendant le petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive, assez rapidement, donc c'est la peste de 541, qui donc suit finalement les éruptions volcaniques et ce refroidissement lié aux éruptions de 536 et 540, et ensuite des poussées épidermiques. Il y a une quinzaine ou une vingtaine de vagues épidémiques jusque pratiquement ici, jusqu'à l'année 767, qui sont représentés ici par les points noirs. Donc on est à la recherche en fait d'une compréhension de la relation entre ces différentes épidémies, de ces différentes poussées épidémiques et les changements climatiques. Bon, pour l'instant, c'est pas on n'a pas la compréhension des choses est relativement limitée. Ce qui est important, c'est que l'impact en fait potentiel du climat sur la peste est extrêmement compliqué. Alors c'est ça qui est représenté en fait sur ce diagramme qui résume un petit peu les choses. Le cycle épidémique en fait est complexe parce qu'en fait il est constitué finalement de trois cycles emboîtés ayant chacun des éléments qui sont sensibles au climat. Hein, on a à la fois un cycle enzootique avec un réservoir de peste avec des rongeurs, en particulier les gerbilles d'Asie centrale qui sont résistantes à la peste. Et donc, on a un cycle quiescent avec des rongeurs qui sont résistants. Et les choses peuvent déborder, atteindre un cycle épizootique avec une flambée, une augmentation de la densité des puces, des rongeurs infectés, et aussi une infection d'autres rongeurs, d'un hôte amplificateur qui, pour le cas qui nous intéresse, est très classiquement le rat noir. Donc on a un cycle aussi à ce niveau, un autre cycle, et ensuite une transmission à l'homme avec un cycle zoonotique, avec les piqûres de puces et les transmissions à l'homme par les puces, par les rongeurs, en particulier les rats noirs, et d'autre part, carrément aussi des transmissions humaines qui peuvent être effectives. Donc on a une complexité des choses parce qu'il y a effectivement trois cycles emboîtés et le climat peut interférer avec différentes composantes. C'est ce qui est signifié en fait sur ce diagramme de principe qui montre que le climat ici, avec les précipitations, les températures, va pouvoir affecter à la fois le cycle des puces, le nombre de rongeurs, les hôtes amplificateurs, rats noirs ou d'autres mammifères. Donc on a un système qui est très complexe, que les épidémiologues modélisateurs essayent de simuler, mais qu'il est très difficile en fait de comprendre dans le détail. En particulier parce qu'il y a des phénomènes qui sont tout à fait non linéaires. Alors, c'est tiré d'une publication justement sur le sujet, c'est juste pour illustrer comme ça de loin le type de modélisation numérique qui est faite pour essayer de simuler les choses. Ici, ce qui est représenté, en fait, c'est tiré d'un travail qui essaye de comprendre justement les poussées de peste au niveau de l'Asie centrale en considérant, d'une part, les gerbilles, les puces, et en essayant de les modéliser. Alors, en fait, les différents calculs ici qui sont présentés, par exemple, on peut calculer les taux de croissance saisonniers des gerbilles, donc ces rongeurs, ces grandes gerbilles, qui sont les rongeurs hôtes stables de la peste. On peut aussi quantifier l'abondance des puces, le taux d'infection des puces, c'est les différents paramètres ici qui sont calculés, et ces différents calculs, en fait, dépendent en fait d'autres paramètres qui sont indiqués ici avec des codes de couleur, et on peut avoir à la fois des paramètres qui dépendent, par exemple, de la densité, du nombre de puces, d'autres encore, mais aussi des paramètres climatiques. Ici, par exemple, intervient dans ces calculs les pluies en été, summer rainfall. Ce que je voulais illustrer, c'est que ces modélisations, en fait, elles sont sont des calculs qui permettent de simuler ces différentes variables que l'on calcule ensuite, mais tout est paramétrisé avec des paramètres qui sont finalement empiriques. Et un des problèmes, c'est qu'il y a des comportements non linéaires, essentiellement avec des seuils pour passer d'un stade à un autre. Donc en fait, on a essentiellement deux stades, deux seuils critiques. Lorsque l'on passe du cycle anzootique au stade épizootique, et pour ensuite passer au cycle zoonotique. Donc des phénomènes de seuil que l'on peut reproduire dans ce type de modélisation avec des seuils qui vont apparaître un petit peu de façon artificielle et arbitraire, qui vont être modélisés avec des paramétrisations, mais dont les coefficients vont être déterminés de façon empirique. Alors cette modélisation épidémiologique, elle est tout à fait utilisée aussi pour les épidémies actuelles, et quand même il est possible aussi de les utiliser, c'est ça qui démontre en fait leur utilité et leur validité. On peut les utiliser pour essayer de prévoir la transmission aux humains, parce que c'est effectivement ça qui est le plus visible, et en tout cas c'est ça qui est répertorié dans le passé. Il n'y a pas, on n'a aucune donnée sur l'abondance de gerbilles et de puces à l'époque romaine, mais par contre on a accès à des statistiques en fait sur le nombre de morts, même s'il y a des débats en fait, mais des chronologies en fait qui peuvent être établies. Donc ici vous avez juste un exemple qui montre que le même type de modélisation peut être utilisé pour regarder les épidémies des derniers 60 ans en Asie centrale et de voir la transmission donc aux hommes, c'est ça qui est indiqué ici sur ce diagramme, en comparaison avec des vraies données donc qui valident finalement la modélisation. Alors ce qui est ici, vous avez des calculs qui montrent en fait encore une fois un phénomène de seuil. Vous voyez ici que le seuil, c'est essentiellement le nombre de la densité des puces, ici, indiquée ici en jaune. If cette densité est supérieure à un paramètre, eh bien, on a ce calcul-là. Et si il est inférieur, on va avoir un autre calcul. Donc, on a un phénomène de seuil, mais tous les paramètres qui sont ici portés, en fait, ont des coefficients qui sont déterminés de façon empirique, qui, quelquefois, dépendent des paramètres de l'infection, mais aussi de paramètres climatiques. Ici, vous retrouvez les températures d'été, les températures de printemps, la pluviosité, les pluies à l'automne, etc. Donc, tous ces paramètres, en fait, sont des ingrédients, finalement, de la modélisation. Et alors, ce qui complique, en fait, les choses, c'est que certains effets climatiques ont des coefficients positifs et d'autres vont avoir des coefficients négatifs. Vous le voyez ici, plus, moins. Et donc, on va avoir, finalement, un comportement qui va être très non linéaire, donc très difficile à utiliser dans le passé, parce qu'on n'a pratiquement pas accès à ces données si l'on voulait faire des modélisations de cette peste justinienne. On n'arrive pas pour l'instant avec les données paléoclimatiques c'est pas encore possible. On ne peut pas avoir de prévision quantifiée parce qu'on n'a pas accès aux données pour essayer de vraiment précisément utiliser ces modèles pour prévoir a posteriori, rétrospectivement, la causalité entre la détérioration climatique du petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive et cette apparition de pestes, mais encore une fois, la corrélation est indéniable. Alors, le résultat, je dirais, le plus important est que, à prendre en compte, c'est que le climat, finalement, ne déclenche pas directement les épidémies, mais il agit sur la densité des rongeurs, la densité des puces, et c'est lui qui peut effectivement influer aussi sur le franchissement des deux seuils critiques. Mais pour l'instant, il y a encore beaucoup d'incertitudes en fait sur l'utilisation de ces modèles pour la période qui nous concerne. Donc on garde finalement beaucoup d'incertitudes sur cette corrélation entre la peste de Justinien, ses récurrences, ces vagues épidémiques successives et ce petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive. Mais y a quand même un fait qui reste, c'est une correspondance entre les deux périodes. Alors, pour retrouver le même type de complexité, on peut aussi considérer d'autres problèmes. Par exemple, on peut aussi considérer avec des choses qui sont aussi compliquées à expliquer et essayer d'estimer ou d'évaluer quels sont les liens entre les changements climatiques dans certaines zones et les conflits armés, en particulier entre les peuples barbares entre guillemets et l'Empire romain. Et alors, ce sont des choses qui sont très difficiles à étudier de façon quantitative, essayer de regarder quelle est l'influence du climat, parce qu'il faut regarder précisément de quelle zone on parle. Alors c'est quelque chose qui commence et qui a été réalisé par plusieurs groupes. Ici, ce que je vous présente, c'est un exemple assez récent qui a regardé précisément un événement particulier de l'histoire romaine, qui est ce que l'on appelle la coalition barbare, ou en anglais ça s'appelle la grande conspiration. Des peuples situés au nord en fait du mur d'Adrien, qui étaient avec une alliance entre les Pictes, les Scots qui étaient situés en Irlande, les Saxons et les Francs, qui se sont coalisés pour envahir, attaquer l'Empire romain, enfin en tout cas la province de Bretagne, de Grande-Bretagne, qui à l'époque était situé donc au sud, ce qui est représenté ici, c'est ce qui a été considéré par les auteurs, c'est les fluctuations en fait des précipitations dans cette zone. Alors d'une part au niveau de tout l'ouest de l'Europe, mais aussi précisément sur la zone britannique. Et ce que les auteurs mentionnent en fait, c'est que cette période de Barbarian Conspiracy, ou de la coalition barbare qui a eu lieu en 367 et 368, en fait, elle a suivi trois années de dégradation climatique, trois années beaucoup plus sèches, qui donc dans l'étude qui a été réalisée par ces auteurs, ce qu'ils expliquent, c'est que cette période sèche a contribué justement à des troubles en fait à la fois au nord et au sud en fait du mur d'Adrien, c'est-à-dire qu'il y avait des pénuries alimentaires aussi pour la province de Bretagne, et que ceci aurait favorisé finalement cette coalition barbare. Donc un effet très difficile à prouver, mais des corrélations et des événements, des troubles qui sont liés aux pénuries alimentaires dans l'Empire romain pour certaines zones que l'on peut documenter directement avec des archives datées à l'année près, ici donc trois années très particulières qui sont les plus sèches pratiquement sur toute la période. Ici on se place entre 350 et 500, donc des événements qui ont dû effectivement occasionner beaucoup de troubles. Alors il est possible, les auteurs ont essayé d'extrapoler ce type d'approche en regardant de façon peut-être inconsciente, mais ils ont essayé de faire des statistiques en fait sur les conflits armés pendant la période entre 360 et pratiquement 500 de notre ère, à la fois les conflits armés à l'intérieur de l'Empire romain, internes, qui sont ici symbolisés avec des rectangles rouges, ou extérieurs à l'Empire romain, donc les combats au-delà du limès romain au nord et au sud, donc la frontière avec les peuples barbares. Donc c'est ce qui est indiqué ici, vous avez une photo d'une reconstitution du limès romain au niveau du nord de Francfort. Alors ce qui a été réalisé par les auteurs, c'est de considérer comme ça plus d'une centaine en fait de conflits armés et de regarder s'il y avait une correspondance avec des changements climatiques précédents les dates de ces conflits armés, et ils ont donc pu détecter le fait qu'il y avait des corrélations significatives entre ces conflits armés, en particulier pour l'ouest en fait de l'Empire romain. Les conflits armés sont précédés généralement par des années chaudes et sèches. Alors c'est ça qui est indiqué sur ce diagramme en fait, qui représente la compilation donc d'une centaine en fait de conflits armés, et tout est représenté en année par rapport à l'année du conflit armé. Donc en fait, ce qui est regardé, c'est tout est synchronisé sur le même zéro, donc l'année du conflit armé, et ce qui est regardé, c'est dans différentes archives climatiques, dendroclimatologie essentiellement, qui permettent de calculer des précipitations, comme je vous l'ai montré, ou de calculer des indicateurs de sécheresse, comme l'index PDSI. Et ce qui est montré dans ce diagramme, c'est que les quelques années précédant les conflits armés, généralement, sont caractérisées par des températures plus importantes et une sécheresse accrue. Alors, le cas est un peu différent. Je ne vais pas regarder les détails parce que ça prendrait trop de temps, mais le cas est un peu différent en Orient. Là, c'est le contraire, c'est plutôt des années humides, qui sont des étés plus humides à l'est, qui précèdent les années de guerre. Mais donc on a des corrélations qui sont somme toute significatives. Mais bon, bien évidemment, il faudrait replacer chaque conflit armé dans le contexte historique de l'époque. Mais le fait qu'il y ait une correspondance statistique manifeste avec ces années, les quelques années qui précèdent, montre que très probablement, ces années chaudes et sèches ont eu un impact cumulatif en fait sur la cohésion sociale. C'est pour ça qu'il y a finalement un retard. C'est pas uniquement une année sèche ou une année plus chaude qui va entraîner un conflit armé. C'est plusieurs années, et c'est relativement logique si l'on comprend les choses en termes d'impact sur l'agriculture, qui peut avoir un impact ensuite sur les troubles sociaux et des conflits armés à la fois en interne et vers l'extérieur de l'Empire romain. Alors les auteurs ont essayé de donner un modèle conceptuel en fait des choses, du lien entre le climat et les conflits armés, en extrapolant même au-delà de ce qui s'est passé pour l'Empire romain, en essayant de considérer la genèse de ces conflits armés, qui est au final avec un déterminisme pas absolu, qui n'est pas unique, mais avec une contribution climatique, à la fois baisse de précipitations et haute température, et avec un impact sur l'agriculture, sur les pénuries alimentaires, sur la pression économique, sur une instabilité sociale manifeste, et ensuite qui ensuite entraîne des troubles sociaux et des conflits armés. Alors ce qui est important, c'est que cette boucle, en fait, cette causalité, cette chaîne causale, en fait, elle vaut aussi bien pour les populations à l'intérieur de l'Empire romain que les populations à l'extérieur. Donc on a, en particulier pour ces conflits, une combinaison finalement de causes internes, comme des pénuries alimentaires, et d'incitations externes pour les peuples qui sont au-delà de l'Empire. Donc il faut considérer finalement les deux pour comprendre en fait ces événements, ces troubles sociaux et ces conflits armés, mais le fait qu'il y ait des corrélations manifeste indique que le climat a probablement contribué. Mais à chaque fois, il faut effectivement considérer les choses de façon précise. Ici, par exemple, pour ce qui concerne la coalition barbare en Angleterre, enfin au nord de l'Angleterre, au nord du mur d'Adrien, il y a à la fois une combinaison d'un impact en fait sur l'agriculture de ces populations, mais aussi un effondrement de l'agriculture au niveau de la province de Bretagne, qui peut donc expliquer aussi l'attractivité, enfin ou l'incitation à venir envahir un pays, enfin ou une zone qui est relativement affaiblie. Donc c'est ça en fait qui est important, c'est qu'il y a à la fois des incitations externes, une attraction externe, c'est ce qui est appelé le pull factor, attraction externe, et d'autre part des problèmes internes, répulsion interne, push factor, qui vont donc conduire une population à organiser des raids ou à se rebeller ou à entraîner des conflits armés. Donc encore une fois, une simplification à l'extrême et pratiquement une impossibilité de faire des quantifications et des simulations, mais c'est un exercice qui est important parce que les corrélations sont manifestes. Alors voilà à peu près ce que je voulais vous montrer sur ces causalités que l'on a considérées pour l'Empire romain, cette succession donc climatique, optimum climatique romain et petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive. Et j'aimerais terminer finalement avec quelques conclusions sur cet essor et cette chute de l'Empire romain. Donc, comme je vous l'ai dit en préambule, c'est pas moi qui vais vous faire le détail en fait de tout ce qui s'est passé et qui explique toutes les explications qui ont été proposées pour expliquer cette chute de l'Empire romain d'Occident en particulier, parce que l'Empire byzantin a perduré jusqu'au Moyen-Âge, mais donc on a vu qu'il y avait dans la littérature beaucoup de causes qui ont été proposées, invasion barbare, division sociale, guerre civile, la religion, le christianisme est intervenu aussi, les grandes épidémies, donc je vous ai parlé de la peste, il y a aussi un déterminisme climatique, je n'ai pas parlé de la pollution en plomb, mais ce sont aussi des choses qui sont envisagées, les problèmes de crise budgétaire liés aux coûts militaires de l'expansion, et on a vu que les variations climatiques à différentes échelles spatiales et temporelles ont probablement eu des impacts. Alors, ce que j'ai essayé de vous montrer dans le cours, ce sont des exemples, des coups de projecteur finalement, sur des exemples à la fois sur le temps long, sur des changements climatiques qui sont tout à fait réels, mais qui ont des échelles de temps ou des échelles spatiales qui vont être différentes. Je vous ai parlé de la transition en fait lente entre l'optimum climatique romain et le petit âge glaciaire, avec l'exemple de la viticulture. Je vous ai dit que l'expansion de la viticulture dans l'Empire romain avait été favorisée par cet optimum climatique romain plus chaud. C'est indéniable. On a vu aussi qu'on pouvait envisager des impacts pour certains événements extrêmes. On l'a vu aujourd'hui, par exemple, avec l'éruption de 43 avant notre ère. C'est quasiment impossible de savoir si il y a une causalité absolue et comment la quantifier, mais c'est indéniable que cet événement climatique tout à fait majeur a forcément eu un impact, et c'est ça qui est aussi enregistré dans les archives historiques, un impact sur des famines et sur des problèmes de pénurie alimentaire, à la fois dans l'Empire romain et en Égypte. Donc il est clair qu'il y a une contribution de l'événement climatique aux troubles de l'époque. Et on a vu, et c'était le troisième exemple, je voulais aussi vous montrer que quand on essaye de faire ce type d'exercice, en particulier avec l'Empire romain, une des grandes complexités, c'est qu'on a un empire qui est très étendu au point de vue géographique, donc il faut s'occuper du climat, mais sur une zone géographique qui peut avoir des changements qui vont être contraires. On a vu que, par exemple, on peut avoir un assèchement au sud de l'Égypte et une augmentation de l'humidité au nord, mais il faut même aller encore plus loin. On est obligé aussi de considérer des téléconnexions climatiques à très grande échelle, c'est-à-dire qu'il faut aussi regarder ce qui se passe de l'autre côté de la Terre, et en particulier pour comprendre la peste de Justinien et les autres événements et les autres récurrences à partir de 541, il faut considérer l'impact climatique aussi sur l'Asie centrale. Et il faut aussi considérer, quand on regarde justement les invasions par les peuples extérieurs aux frontières de l'Empire romain, il faut aussi regarder les conditions climatiques et ce qui a pu motiver les migrations à ces époques, pendant cette grande période de migration qui a suivi justement cet optimum climatique romain. Voilà, c'était à peu près les conclusions que je voulais vous donner pour ce cours. J'en ai terminé pour cette année. Donc je vous remercie encore de votre attention et je vous invite à suivre la suite l'année prochaine. Et en attendant, en fait, je voulais vous signaler aussi que nous aurons un séminaire, un colloque en fait, qui va être organisé cette année sous la forme de 2 jours que je fais en collaboration avec Alessandro Morbidelli, et qui va être dédié, c'est un colloque en fait sur 2 jours, qui s'intitule « La Terre, une planète dynamique », qui est un hommage aussi à un collègue qui est décédé récemment, qui était professeur ici même, Xavier Lepichon. Donc un colloque de 2 jours, organisé avec Alessandro Morbidelli, que vous connaissez bien, on va parler de la Terre. On va aller même au-delà de la Terre, parce qu'on va parler de planétologie, de géodynamique globale, sismique aussi, de tremblement de terre, et aussi de déterminisme climatique, enfin de changement climatique sur des échelles de temps relativement importantes. On regardera l'influence en particulier de la dérive des continents sur les climats anciens, à la fois les changements paléogéographiques ainsi que les changements de gaz à effet de serre sur des constantes de temps beaucoup plus longues. On considérera aussi le volcanisme parce qu'il y a eu des périodes pendant lesquelles le volcanisme a été plus important et finalement les mêmes types de modélisation vont pouvoir être envisagés dans les 2 cas. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.